Tom Jones, livre 4, comprenant l'espace d'une année. Fin du chapitre 1er. Le Lord Mayor, cet imposant magistrat, doit beaucoup du respect qu'il accompagne pendant toute l'année qu'il remplit cette fonction à la foule de carrosses de cérémonie qui précèdent pompeusement sa marche. Et moi-même, qui ne suis pas très facilement ébloui par l'apparence, j'avoue que je me suis laissé aller à l'impression que me faisait un cortège magnifique et nombreux. Quand j'ai vu un homme se carrant dans une procession, après d'autres hommes dont la seule affaire était de marcher devant lui, j'ai conçu une plus haute opinion de son importance qu'en le voyant dans une situation commune. Mais voici un exemple qui convient encore mieux à mon sujet. C'est la coutume de faire précéder la pompe du couronnement par une bouquetière qui jonche le chemin de fleurs avant que les grands personnages commencent leur procession. Les anciens auraient sans doute invoqué la déesse Flore en cette circonstance, et il n'aurait pas été difficile à leurs prêtres et à leurs politiques de persuader le peuple de la présence réelle de cette divinité, quoiqu'une simple mortelle en eût rempli le personnage et les fonctions. Mais nous n'avons pas le dessein d'en imposer à nos lecteurs. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas à la théologie païenne peuvent, s'ils le veulent, changer notre déesse en bouquetière. Notre intention, en un mot, est d'introduire notre héroïne avec toute la solennité possible, la plus haute élévation de style et toutes les autres circonstances propres à exciter la vénération de nos lecteurs. Nous conseillerions même à ceux d'entre eux qui ont un cœur de ne pas pousser plus loin leur lecture. Si nous n'étions pas bien assurés que, quelque admirable que puisse paraître le portrait de notre héroïne, comme il est réellement copié d'après nature, beaucoup de nos belles compatriotes seront encore trouvés dignes d'inspirer les plus fortes passions et pourront répondre à toutes les idées de perfection que notre pinceau aura le talent de faire naître. Sans une plus longue préface, nous allons commencer le chapitre suivant. Chapitre 2. Légère idée de ce que nous pouvons dans le genre sublime et portrait de Miss Sophie Western. Calmez-vous, souffles impétueux. Souverain régulateur des vents, retient dans des chaînes de fer le brillant Boré et le piquant Eurus. Doux Zéphyr, lève-toi de ton lit odorant, monte vers l'Occident, amène avec toi ces vents frais et délicieux, qui, le 1er de juin, jour de sa naissance, font sortir la belle fleur de sa retraite embaumée et rafraîchie par une abondante rosée de perles. C'est alors que cette vierge, brillante de fraîcheur, dans un vêtement négligé, glisse doucement sur la verte prairie, où chaque fleur s'élève pour lui rendre hommage, jusqu'à ce que la terre en soit tout émaillée, et que les couleurs disputent avec les parfums à qui la ravira le plus. Puisse ma Sophie paraître à tous les yeux aussi charmante que la déesse. Et vous, chantres emplumés de la nature, dont les sons harmonieux ont une douceur que Handel lui-même ne saurait surpasser, accordez vos gosiers mélodieux pour célébrer sa présence. Votre musique, née de l'amour, fait naître l'amour. Éveillez donc cette tendre passion dans le cœur de tous les bergers, ornée de tous les charmes dont la nature a pu la pourvoir, parée de beauté, de jeunesse, de vivacité, d'innocence, de modestie et de tendresse, exhalant les plus doux parfums de ses lèvres de rose, lançant le plus vif éclat de ses yeux brillants, Sophie va paraître. Tu as peut-être vu, lecteur, la statue de Vénus de Médicis. Tu as peut-être vu aussi la Galerie des Beautés d'Angleterre à Hampton Court. Tu dois te souvenir d'y avoir remarqué toutes celles de la famille de Churchill. Si tu n'étais pas de leur règne, il est impossible que tu n'aies pas connu leur fille, beauté non moins brillante du siècle présent, et dont nous insérerions ici les noms et les belles qualités, si nous ne craignions d'en remplir tout le volume. En ce cas, tu ne crains point sans doute, le mot du Lord Rochester à un homme qui avait vu un grand nombre de femmes charmantes. Si tu les as vues sans avoir appris ce qu'est la beauté, tu n'as pas Dieu. Si tu n'as pas senti son pouvoir, tu n'as pas de cœur. Cependant, il est possible, mon ami, que tu aies toutes ces beautés sans être capable de te former une idée parfaite de Sophie. Car elle ne ressemblait exactement à aucune d'elles. Elle ressemblait davantage à Lady Ranelagh et plus encore à ce que j'ai entendu dire à la fameuse duchesse de Mazarin. Mais par-dessus tout, à une femme dont l'image ne sortira jamais de mon cœur. Et si tu te souviens de l'avoir vue, mon ami, tu as le portrait fidèle de Sophie. Dans la crainte pourtant que tu n'aies pas eu ce bonheur, nous emploierons tout notre talent à te peindre ce modèle de perfection, quoique nous sentions bien que notre tâche est infiniment au-dessus de nos forces. Sophie, fille unique de M. Weston, était plutôt grande que petite. Sa taille n'était pas seulement dans les plus exactes proportions, mais extrêmement fine. Et la forme charmante de ses bras promettait la symétrie la plus parfaite dans tout le reste de sa personne. Ses cheveux noirs étaient si longs qu'ils lui descendaient jusqu'à la ceinture avant qu'elle les eût coupés pour suivre la mode. Ils étaient alors si agréablement bouclés sur son cou qu'on avait peine à croire qu'ils fussent à elle. Si l'envie avait pu découvrir qu'une partie de son visage méritait moins d'éloges que le reste, peut-être aurait-elle pensé que son front aurait pu être un peu plus élevé sans nuire à sa beauté. Ses sourcils étaient pleins, égaux, et formant deux arcs que tout le pouvoir de l'art ne saurait imiter. Ses yeux noirs jetaient un éclat que toute la douceur de son visage ne pouvait modérer. Son nez était parfaitement régulier, et sa bouche ornée de deux rangs de perles répondait exactement à la description de Sir John Suckling dans ses vers. Ses lèvres de la rose empruntaient la couleur, l'une d'elles avait un peu plus d'épaisseur, une abeille l'avait nouvellement piquée. Ses joues étaient de forme ovale. Elle avait dans la droite une fossette que laissait apercevoir le plus léger sourire. Son menton contribuait encore à la beauté de son visage par le contour le plus gracieux. Son teint tenait plus du lys que de la rose. Mais quand l'exercice ou la pudeur augmentaient sa couleur naturelle, aucun vermillon ne pouvait lui être comparé. Alors on pouvait s'écrier véritablement avec le docteur Dunn. Son sang pur, éloquent, parlait sur son visage et si distinctement qu'on eût dit qu'il avait le don de la pensée. Son cou était long et arrondi d'une manière charmante, et si je ne craignais de blesser sa délicatesse, je pourrais dire ici que les charmes qui en étaient les plus voisins surpassaient les beautés les plus parfaites de la fameuse Vénus de Médicis. Le lys, l'ivoire, l'albâtre étaient moins blancs, et l'on aurait pu supposer que c'était par envie que la gaze la plus fine couvrait ce sein dont elle ne pouvait égaler la blancheur. Nitor splendens pario marmore purius. Son éclat surpassait le marbre de Paros. Tel était l'extérieur de Sophie, et ce beau corps n'était pas déshonoré par une habitante indigne de lui. Son âme égalait en perfection sa personne qui en empruntait même quelques charmes. Car lorsqu'elle souriait, la douceur de son caractère répandait sur tous ses traits un éclat que la plus parfaite régularité ne saurait donner. Mais comme il n'y a dans l'âme aucune perfection qui ne se découvre dans l'intimité à laquelle nous avons le projet d'admettre notre lecteur auprès de cette charmante personne, il est inutile d'entrer ici dans d'autres détails. Je dis plus, ce serait faire injure à son intelligence et lui dérober le plaisir dont il jouira en jugeant lui-même son caractère. Il est cependant encore nécessaire de dire que quelques perfections que son âme eût reçues de la nature, elles étaient encore augmentées et cultivées par l'art, car elle avait été élevée sous la surveillance d'une tante, dame d'une grande prudence, qui connaissait parfaitement le monde, ayant vécu dans sa jeunesse à la cour, d'où elle s'était retirée pour vivre à la campagne depuis quelques années. Sa conversation et ses instructions avaient été très utiles à Sophie, quoique celle-ci manquât un peu dans son maintien de cette aisance qui ne s'acquiert que par l'habitude et en vivant dans ce qu'on appelle le grand monde. Mais il faut convenir qu'on l'achète souvent très cher, et quoiqu'elle ait des charmes si inexprimables que les Français la distinguent des autres qualités en disant que c'est un je ne sais quoi, elle est bien compensée par l'innocence. Et le bon sens accompagné des grâces naturelles n'en a jamais besoin. Chapitre 3. Dans lequel l'histoire rétrograde et rappelle un léger incident arrivé quelques années auparavant et qui, tout léger qu'il paraîtra, eut dans la suite quelques conséquences. C'est à l'âge de 18 ans que je présente Sophie à mes lecteurs. Son père, comme on l'a déjà dit, l'aimait plus qu'aucune autre créature humaine. Ce fut donc à elle que Tom Jones s'adressa pour l'engager à s'intéresser en faveur de son ami le garde-chasse. Mais avant de nous occuper de cette affaire, il est essentiel que nous résumions quelques faits précédents. Quoique les différents caractères de M. Allworthy et de M. Weston ne permissent pas une bien grande intimité entre eux, ils vivaient cependant ce qu'on appelle en bon voisin, ce qui avait laissé la liberté aux jeunes gens des deux familles de se lier ensemble dès leur enfance. Et comme ils étaient à peu près du même âge, ils faisaient souvent des parties de jeu en commun. La gaieté du caractère de Tom convenait beaucoup mieux à Sophie que la conduite grave et discrète de M. Blifil. Et la préférence qu'elle donnait au premier était si marquée qu'un jeune homme d'un caractère plus ardent que ne l'était M. Blifil en aurait ressenti quelque déplaisir. Mais comme il n'en exprima aucun, il serait mal à nous de nous introduire dans les replis les plus cachés de son âme, comme font quelques médisants qui s'immiscent dans les affaires les plus secrètes de leurs amis et fouillent souvent dans leurs cabinets et dans leurs armoires, seulement pour avoir le plaisir de divulguer leurs défauts. Cependant, comme les personnes qui croient avoir donné à d'autres des raisons d'être offensées sont très portées à en conclure qu'elles le sont réellement, Sophie imputa à la colère de M. Blifil une action que la sagacité supérieure de Thwackum et de Square avait attribuée à de bien meilleurs principes. Tom Jones, encore jeune, avait donné à Sophie un petit oiseau qu'il avait déniché, élevé, et à qui il avait appris à chanter. Sophie, qui avait alors 13 ans, aimait si tendrement ce petit oiseau qu'elle faisait sa principale affaire de le nourrir, d'en prendre soin, et son principal plaisir de jouer avec lui. Ce qui avait rendu le petit Tommy, car c'est ainsi que s'appelait le petit oiseau, si apprivoisé et si familier qu'il mangeait dans la main de sa maîtresse et se perchait sur son doigt et se couchait sur son sein, où il avait presque l'air de sentir son bonheur, quoiqu'elle lui tînt toujours la patte attachée avec un ruban et n'osa pas lui laisser la liberté de s'envoler. Un jour que M. Allworthy et toute sa famille dînaient chez M. Weston, M. Blifil, étant dans le jardin avec la petite Sophie, et observant la tendresse extrême qu'elle montrait pour son oiseau, la pria de le lui confier un moment. Sophie y consentit, et lui remit son cher oiseau, après avoir pris toutes les précautions convenables, pour qu'il ne pût s'échapper. M. Blifil ne l'eut pas plus tôt entre les mains qu'il fit glisser le ruban qui lui attachait la patte, et le laissa envoler. Le petit ingrat ne se vit pas plus tôt en liberté, qu'oubliant toutes les faveurs qu'il avait reçues de Sophie, il s'éloigna d'elle et alla se percher sur une branche à quelque distance de là. Sophie, voyant son oiseau parti, jeta des cris si perçants que Tom Jones, qui n'était pas fort loin, accourut immédiatement à son secours. Il ne fut pas plutôt instruit de ce qui était arrivé qu'il s'emporta contre Blifil, l'appela un vilain méchant et, quittant aussitôt son habit, il se mit à grimper à l'arbre sur lequel l'oiseau s'était envolé. Tom était prêt à mettre la main sur son petit frère de nom, lorsque la branche sur laquelle il était perché et qui s'étendait sur un canal se rompit et précipita le pauvre enfant, la tête la première, au fond de l'eau. Le chagrin de Sophie changea aussitôt d'objet, et comme elle craignait que la vie de Tom ne fût en danger, elle cria 10 fois plus fort qu'auparavant. Il faut convenir que M. Blifil la seconda parfaitement en criant de toutes ses forces. La compagnie, qui se tenait dans une salle sur le jardin, fut alarmée et sortit du côté d'où les cris se faisaient entendre. Mais à peine arrivait-elle au canal que Tom, l'eau étant heureusement basse en cet endroit, venait de regagner le bord sain et sauf. Thwackum s'emporta avec violence contre le pauvre Tom, qui était devant lui dégouttant d'eau et frissonnant de froid, quand M. Allworthy le pria de prendre patience et, se tournant vers M. Blifil, lui dit « Je vous en prie, mon enfant, quelle est la cause de tout ce tumulte ?» M. Blifil lui répondit « En vérité, mon oncle, je suis bien fâché de ce que j'ai fait. C'est moi qui suis malheureusement la cause de tout. J'avais le petit oiseau de Miss Sophie dans ma main, et pensant que la pauvre créature souffrait de ne pas avoir sa liberté, j'avoue que je n'ai pu m'empêcher de lui donner ce qu'il désirait. Car j'ai toujours pensé qu'il était cruel d'ôter la liberté à un être vivant. Il m'a toujours semblé que cela était contre les lois de la nature, par lesquelles tout ce qui respire a un droit égal à la liberté. Je trouve même que rien n'est moins chrétien, car c'est faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Mais je n'aurais pas même agi ainsi si j'avais pu imaginer que Miss Sophie en eût été si chagrine, et surtout si j'avais pu prévoir ce qui est arrivé à l'oiseau lui-même. Car au moment que M. Jones, qui était monté sur cet arbre pour le rattraper, est tombé dans l'eau, l'oiseau s'est envolé, et aussitôt un vilain épervier a fondu sur lui et l'a emporté. La pauvre Sophie, qui n'apprenait que dans l'instant le triste sort de son petit Tommy, car son inquiétude pour Jones l'avait seule occupée, versa un torrent de larmes, que M. Allworthy tâcha de calmer en lui promettant un beaucoup plus bel oiseau. Mais elle déclara qu'elle n'en aurait jamais d'autre. Son père la gronda de pleurer si fort pour un misérable oiseau. Mais il ne put s'empêcher de dire au jeune Blifil que s'il était son fils, son derrière s'en ressentirait longtemps. Sophie s'en retourna dans sa chambre, les deux jeunes gens furent renvoyés chez eux, et le reste de la compagnie se rejoignit à table, où il s'entama, au sujet du petit oiseau, une conversation si curieuse que nous croyons qu'elle mérite à elle seule un chapitre tout entier. Chapitre 4. Dans lequel on traite des sujets si graves et si profonds qu'ils pourront bien être pressentis par tous les lecteurs. Square n'eut pas plutôt rallumé sa pipe que, s'adressant à M. Allworthy, il commença ainsi. « Je ne puis m'empêcher, monsieur, de vous faire compliment de votre neveu, qui, dans un âge où les enfants n'ont d'idées que celles que leur font naître des objets sensibles, est parvenu au point d'être capable de distinguer le juste de l'injuste. Ôter la liberté à un être vivant m'a toujours semblé contrarier les lois de la nature, par lesquelles tout ce qui respire a un droit égal à la liberté. Ce sont ses propres mots, et l'impression qu'ils ont faite sur moi ne s'effacera jamais. Nul homme ne peut avoir de notion plus élevée des règles de la justice et de l'éternelle convenance des choses. Je ne puis m'empêcher d'espérer, d'après l'éclat d'une si brillante aurore, que le midi de ce jeune homme égalera quelque jour celui des deux Brutus. » Thwackum l'interrompit ici vivement, et après avoir répandu un peu de son vin et avalé le reste avec précipitation, « Il s'est aussi servi, leur répondit-il, d'une autre expression qui me fait espérer qu'il ressemblera à des hommes beaucoup meilleurs que vos Brutus. La loi de la nature est un jargon de mots qui ne signifie rien. Je ne connais aucune loi semblable, et je ne vois pas quelle sorte de justice on peut en attendre. Faire aux autres ce que nous voudrions qu'on nous fît est réellement un motif chrétien, comme le jeune homme l'a très bien dit, et je suis charmé de voir que mes instructions ont porté de si bons fruits. » « Si la vanité était une chose convenable, répliqua Square, je pourrais m'en permettre un peu en cette occasion, car je pense qu'on peut deviner aisément qui seul a pu lui donner ces notions du juste et de l'injuste. S'il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a ni juste ni injuste. » « Comment, dit le ministre, ne croyez-vous pas à la révélation? Parlais-je à un déiste ou à un athée? Vous feriez mieux de boire, s'écria M. Weston. Que le diable emporte vos lois de la nature. Je ne sais ce que vous entendez ni l'un ni l'autre par le juste et l'injuste. Rien n'était plus injuste, à mon avis, que de prendre l'oiseau qui appartenait à ma fille. Mon voisin, Allworthy, fera comme il lui plaira. Mais encourager les jeunes gens à se conduire ainsi, c'est les élever pour être un jour pendus. » M. Allworthy répondit qu'il était fâché de ce que son neveu avait fait, mais qu'il ne pouvait consentir à le punir, puisqu'il avait agi plutôt par un motif généreux que vil. Ajoutant que si l'enfant avait volé l'oiseau, personne ne serait plus porté que lui à le faire châtier sévèrement. Mais il était clair que ce n'avait pas été son dessein, qu'il ne pouvait avoir eu d'autre but que celui qu'il avait avoué lui-même. Car la méchanceté dont Sophie le soupçonnait n'entra pas une seule fois dans la tête de M. Allworthy. Il finit en blâmant l'action comme indiscrète et n'étant, dit-il, pardonnable qu'à un enfant. Square avait exprimé son opinion si ouvertement que s'il gardait le silence, il fallait qu'il se soumît à la censure que son jugement avait encourue. Il dit donc avec quelque chaleur que M. Allworthy s'attachait trop à de misérables considérations, qu'en jugeant les grandes et belles actions, tous les égards particuliers devaient être écartés. car si l'on s'attachait étroitement à ces règles, l'un des Brutus serait accusé de parricide et l'autre d'ingratitude. « Et s'ils avaient été pendus pour ces crimes, s'écria Thwackum, ils n'auraient eu que ce qu'ils méritaient. C'étaient deux misérables païens. Le ciel en soit loué, nous n'avons point de Brutus aujourd'hui. Je souhaite, monsieur Square, que vous vous absteniez dorénavant de remplir l'esprit de mes élèves de tout ce fatras antichrétien, car la conséquence en serait pour eux d'être bien fouettés tant qu'ils seront sous ma discipline. Vous avez déjà presque tout à fait gâté votre disciple Tom. Je l'entendis l'autre jour disputant avec M. Blifil et avançant que la foi sans les œuvres n'avait aucun mérite. Je sais que c'est un de vos principes, et je suppose qu'il le tient de vous. « Ne m'accusez point de le gâter, dit Square. Qui lui a appris à rire de tout ce qui est décent, vertueux, convenable et juste dans la nature des choses? Il est votre disciple, je le désavoue. C'est M. Blifil qui est le mien. Tout jeune qu'il est, je vous défie de déraciner jamais les notions de justice que je lui ai données. » Thwackum répliqua avec un sourire méprisant, « Oui, oui, je vous l'abandonne sans crainte. Il a trop de bons principes pour que votre jargon philosophique puisse nuire. C'est moi qui lui ai inculqué les bons principes que... Et moi aussi je lui ai inculqué les principes, s'écria Square. C'est moi qui lui ai appris qu'il n'y avait que la sublime idée de la vertu qui put inspirer à l'esprit humain la généreuse pensée de la liberté. Et je vous répète encore que s'il convenait d'être fin, je pourrais réclamer l'honneur d'avoir inculqué dans son esprit cette idée que... Et si l'orgueil n'était pas défendu, dit Thwackum, je pourrais bien me vanter de lui avoir enseigné ce devoir qu'il donne lui-même pour motif et qui... Ainsi, dit M. Weston, vous vous disputez tous les deux à qui a le mieux enseigné au jeune homme à voler ma fille. Je vois qu'il faut que je veille aux perdrix que j'ai renfermées. Sinon, quelque homme vertueux ou religieux viendrait les mettre toutes en liberté. Puis, frappant sur l'épaule d'un homme de loi qui était présent, il s'écria, « Qu'en pensez-vous, monsieur le conseiller? Cela n'est-il pas contre la loi ?» L'homme de loi répondit avec beaucoup de gravité, « S'il s'agit d'une perdrix, il n'y a pas de doute qu'il pourrait y avoir un procès. Car, quoi qu'elle soit du genre que nous nommons ferre naturae, cependant, quand elle est apprivoisée, la propriété parle en sa faveur. Mais s'il s'agit d'un oiseau chantant, quoique apprivoisé, comme c'est un animal de peu de valeur, il doit être considéré comme « nullus in bonis ». C'est pourquoi je pense qu'en ce cas, la plainte n'aurait pas de suite, et je conseillerais de n'en point porter. « Fort bien, dit M. Weston, si cela est nullus bonus, buvons et parlons un peu des affaires d'État, ou de quelque chose de cette nature que nous entendions tous. Car je vous assure que je n'entends pas un mot de tout ceci. Autant que je peux m'y connaître, il peut y avoir de l'érudition et du génie. Mais vous ne me persuaderez jamais. » « Fis donc, vous n'avez ni l'un ni l'autre dit un mot de ce pauvre jeune homme qui mérite si bien qu'on fasse son éloge. Hasarder de se casser le col pour obliger ma fille était pourtant une action vive et généreuse. J'ai assez de science pour voir cela. Dieu me donne, il s'agit ici de boire à sa santé. Je l'aimerai pour cela jusqu'au dernier jour que j'ai encore à vivre. » Ici finit le débat, mais il aurait probablement recommencé si M. Allworthy n'avait pas, au moment même, demandé sa voiture et n'eût emmené les deux adversaires. C'est ainsi que se termina l'aventure de l'oiseau et le dialogue qu'il occasionna. Nous n'avons pu nous empêcher d'en faire part à nos lecteurs, quoique cela se soit passé quelques années avant l'époque actuelle de notre histoire.